En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de colloque organisée par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces réflexions peuvent être inhérentes à plusieurs domaines qui vont de la science à la philosophie en passant par la théologie. Canal Académie vous propose d'écouter ce deuxième colloque portant sur les états modifiés de conscience. Au total, 6 conférences sont retransmises sur notre site. Retrouvez dès maintenant l'intervention de Jean-Pierre Jourdan, médecin président et directeur de la recherche médicale de l'association IANDS France. Son propos s'intéressait aux états de mort imminentes.
Bonjour. Donc, après un exposé extrêmement sérieux, je vais essayer de vous distraire un petit peu avec une étude un peu particulière, peut-être des expériences de mort imminente. Alors, la première des choses, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe et qu'on va essayer de rester en dehors de toute métaphysique qui n'apporte rien à la chose. Je vais essayer de vous montrer comment on peut aborder ces expériences d'une manière raisonnée et scientifique. Ces expériences, bon, concernent, ne serait-ce que pour les études hospitalières, entre 15 et 20% des personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque, qui était totalement inconscient pour toute personne autour d'eux, y compris en particulier pour les médecins et les réanimateurs, et qui assure avoir été parfaitement conscient et qui, dans un certain nombre de cas, rapportent avoir perçu ce qui se passait autour d'eux et peuvent raconter parfois leur réanimation en apportant des détails qu'on verra un petit peu plus tard. Pour faire un résumé de ces expériences, la première des choses est que ces personnes reprennent conscience apparemment hors de leur corps. Ça n'a rien à voir avec les histoires de voyage astral où les personnes sont conscientes et sortent de leur corps, c'est pas du tout la même chose. Les expériences sur du corps qu'on va étudier tout à l'heure et une caractéristique dont on va parler ne concernent que les expériences sur du corps lors des expériences de mort imminente. Donc, ils perçoivent leur propre corps, ce qui se passe autour, ils peuvent donner des détails dans un certain nombre de cas, et des scènes précises dans leur entourage. Et tout ça est toujours extrêmement banal. C'est compte tenu, évidemment, des circonstances. L'intérêt des scènes qui sont décrites, c'est qu'elles peuvent donner, en plus, on connaît le moment où elles se sont passées, une assurance sur leur état de conscience ou d'inconscience à ce moment-là. Alors ça, c'est pour la partie qu'on peut appeler objective, et sur laquelle on va se pencher un petit peu plus. Après, bon, il y a une phase qui est plutôt transcendante, qui est beaucoup plus difficile à analyser, avec une impression d'amour inconditionnel, la perception d'un tunnel, qui en fait n'est pratiquement jamais un tunnel, ça peut être n'importe quelle structure de passage, donc là on se rend compte qu'il y a une reconstruction, en tout cas une symbolisation, ça peut être une vallée, ça peut être un couloir, ça peut être un escalier, enfin bon. Une lumière qui attire ces personnes. Encore une fois, si on pose la question, cette lumière n'a rien à voir avec une lumière physique ou même neurologique, puisqu'en fait, ils vous disent que c'est plus de l'amour qu'autre chose quand ils réfléchissent. Certains rencontrent un être de lumière ou un guide qui les aide à vivre leur expérience, qui en général est plein d'humour, qui peuvent les amener à revoir certaines parties de leur vie ou leur vie tout entière. Et l'expérience se termine souvent avec une notion de limite à ne pas dépasser, qui est encore une fois symbolique. Ça peut être une porte, ça peut être des marches, ça peut être une barrière. Ça peut être quelque chose qui est compris simplement. Un facteur très important aussi, c'est dans la suite de l'expérience, parce que bon, la grosse question concernant ces expériences, c'est est-ce que ce sont des illusions, des hallucinations, ou est-ce qu'il y a quelque chose de réel derrière, auquel cas, ça vaut le coup de creuser un petit peu. Donc, pour beaucoup de personnes, il y a un changement de valeur qui est très important. Les gens oublient complètement toutes les valeurs de position sociale, de réussite, pour donner beaucoup plus d'importance à l'altruisme, en particulier. Et une spiritualité sur laquelle se retrouvent à la fois des gens qui étaient complètement incroyants et des gens qui étaient croyants, qui oublient tout ce qu'ils pensaient avant, pour se retrouver dans une espèce de recherche de sens, mais de spiritualité laïque. C'est-à-dire que c'est des gens qui refusent tout dogmatisme, qu'il soit philosophique, politique, religieux ou autre. Ils se mettent à penser par eux-mêmes. Donc pour l'étude là qu'on va un peu voir survoler, j'ai repris 70 témoignages d'expériences de mort imminente, dans lesquels 48... rapportent une expérience sur du corps, c'est-à-dire qu'ils avaient au minimum vu leur corps, et 24 rapportent des détails et des scènes qu'ils ont pu vérifier ou faire vérifier par le chirurgien ou le cardiologue par la suite. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire la différence avec d'autres expériences qui sont à peu près similaires, mais qui n'ont rien à voir, le rêve éveillé, les paralysies du sommeil, les intrusions de sommeil paradoxal, et les stimulations de certaines zones du cerveau qui peuvent donner l'illusion de sortir de son corps, mais qui n'ont rien à voir a priori, parce que leurs caractéristiques sont totalement différentes. Alors, pour essayer d'aborder ces questions, j'ai demandé à ces personnes, comment avez-vous perçu ? Parce que par définition, quand on est inconscient, On a un cerveau qui manque d'oxygène, qui manque de glucose, qui a priori n'est pas plus efficace que son poids de fromage blanc. On a du mal à percevoir quoi que ce soit, ni à le mémoriser. Donc, puisqu'ils affirment avoir perçu, c'est intéressant de savoir comment. Et alors là, on se retrouve avec des trucs complètement farfelus, effectivement. Beaucoup qui rapportent une perception globale, non sensorielle, ce qui est logique, puisqu'ils n'ont pas vu avec les yeux, ils n'ont pas entendu avec les oreilles, et effectivement, ils le reconnaissent. 38% rapportent avoir perçu tout autour d'eux, sur 360 degrés, ou sur une sphère, en fait. 28% une perception depuis partout à la fois. Donc, ils étaient partout. On va voir comment, pourquoi. Une impression de zoom et de déplacement instantané quand quelque chose attire leur attention. 28%, c'est pas mal aussi. La perception de scènes et de détails distants, comme par exemple une dame qui était dans le coma pendant une intervention chirurgicale où elle a fait une hémorragie, qui a pu raconter après à son mari qu'elle l'avait vue dans la salle d'attente. Et elle lui a dit, c'est marrant, dans la salle d'attente. Imagine une salle d'attente, qu'est-ce qu'on trouve dans une salle d'attente en général? Des chaises. Mais il n'y avait pas de chaises dans la salle d'attente et elle a pu le dire. Ça fait partie des détails totalement banals, mais curieux quand même. 40% rapportent une perception par transparence. Donc on est vraiment dans le farfelu le plus complet. L'impression de passer à travers les murs et les plafonds. Et d'autres effets de perspective dynamique qu'on verra éventuellement tout à l'heure. Donc on va déjà repartir sur cette impression d'acquisition globale d'informations. Voilà les quelques réponses. Les souvenirs que j'ai de ces instants ne sont pas visuels, ce sont des impressions intérieures ressenties fortement et aussi nettement que n'importe quel vécu ordinaire. Mais je ne peux pas parler d'images, de formes, etc. Les impressions sont plutôt d'ordre visuel, mais je ne suis pas capable de dire comment on perçoit. Ce ne sont pas les sens habituels, y compris la vue. Je ne peux dire si c'était la vue ou autre chose, comme si on voyait à la fois devant et derrière soi, à travers les objets, une vue holographique. Il n'y a pas de cloisonnement entre les sens. Il y a à la fois la vue et le ressenti, une espèce de contact, de perception intime de la chose qu'on observe. Alors en fait, nos perceptions habituelles, elles passent par les organes des sens, qui sont des capteurs, le nez, les yeux, les oreilles, la peau, le labyrinthe pour l'équilibre. Le cerveau a des aires primaires qui traitent l'information directe, et ensuite des aires associatives qui mettent tout ça en forme, et ensuite une prise de conscience, disons, pour simplifier. Manifestement, pendant les expériences de mort imminente, s'il y a une perception, il y a une acquisition globale d'informations. On peut supposer, en tout cas, si on veut explorer ces expériences, on peut partir de, c'est pas d'un a priori, mais d'une hypothèse, dans laquelle, en fait, tout ce qui va concerner l'environnement va être retraité d'une manière visuelle. Les gens vous diront qu'ils ont vu le chirurgien, l'infirmière, des détails. Et tout ce qui est sémantique, tout ce qui concerne la perception de sens, va être retranscrit sous forme auditive. Ils vont vous dire qu'ils ont entendu, alors qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas entendu. Voilà, ça c'est les questions qu'on peut se poser, la façon d'aborder les choses. Donc puisqu'on a des perceptions, des modalités perceptives qui sont totalement irrationnelles et farfelues, eh ben, on va partir sur une hypothèse et une modélisation qui va vous paraître aussi irrationnelle et farfelue. Vous allez comprendre, tout se passe comme si durant la phase hors du corps, les expérienceurs étaient capables de percevoir notre monde depuis un point situé dans une dimension supplémentaire. Alors là c'est de la science-fiction, ou alors je suis complètement allumé. Voilà, en fait, c'est très simple, et ça n'a rien d'ésotérique. Là, ce que vous voyez, c'est un plan. Un plan a une largeur, une hauteur, il n'a aucune épaisseur. Donc c'est un objet en deux dimensions. Si vous regardez vos voisins, ou si vous regardez n'importe quoi dans cette pièce, vous apercevrez qu'on est tous en trois dimensions, heureusement, et que, par conséquent, n'importe quel objet ou personne, ou quoi que ce soit en trois dimensions, vous en voyez une partie, et tout ce qui est derrière vous est caché. Donc tout objet en trois dimensions, à notre vue, a une ou des faces cachées. Par contre, un univers en deux dimensions, comme celui-là, que nous voyons depuis une troisième dimension, c'est une dimension supplémentaire par rapport à un plan, donc ça n'a rien d'ésotérique, il n'y a strictement rien qui peut nous être caché, c'est-à-dire qu'on voit à la fois l'arrière, l'avant, les côtés gauche et droit de la voiture, on voit les six tabourets à la fois, on voit le petit monsieur qui n'est pas sur son lit, puisqu'il n'y a pas ni dessus ni dessous. Hein. C'est un univers ultra plat, il n'y a strictement aucune épaisseur. Simplement, le bleu est une couleur agréable pour dormir. On voit sa belle-mère qui est en train de farfouiller dans le frigo. Et tout ça, on le voit d'un seul coup d'œil. Donc, il y a une perception absolument globale. Et absolument rien ne peut nous être caché. Donc, voilà ce plan, donc X, Y, la longueur, la largeur. Et on va imaginer un petit bonhomme qui vit dans cet univers. Alors, pour comprendre sa vision des choses, c'est pas du tout la même que la nôtre. C'est-à-dire qu'il a, nous, on a une rétine qui est plate, enfin, qui est arrondie, mais qui est en deux dimensions. et on voit en relief, en pseudo-relief, parce qu'on a deux yeux. Lui a une rétine, donc, qui est filiforme d'une certaine manière. Donc, ce qu'il va percevoir de son monde, c'est quelque chose comme ça. Là, j'ai mis une certaine épaisseur pour qu'on y voit quelque chose. Il faut bien comprendre qu'en fait, dans son monde, il n'y a strictement aucune épaisseur. Et comme nous, son champ visuel est limité. Et pour voir ce qui se passe sur les côtés ou derrière lui, bah, il est obligé de tourner la tête ou de tourner les yeux. Ça n'a rien d'ésotérique, mais il faut bien le comprendre pour la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est considérer une troisième dimension qui est une simple hauteur. Donc je vous répète qu'il n'a rien, ce n'est pas de la science-fiction, puisqu'on vit dedans. Et on va imaginer que ce petit bonhomme va, pendant quelque temps, bénéficier de notre point de vue. C'est-à-dire qu'il va percevoir son propre univers depuis un point extérieur. Ce qui, pour nous, ne pose aucun problème. Mais pour lui, n'en passera peut-être pas sur le moment, mais après, la question est, comment va-t-il pouvoir raconter ça à ses copains quand il va rentrer chez lui? Parce qu'en fait, Dédé, en fait, il s'est aperçu que sa grand-mère lui avait cassé la voiture et son petit cœur n'a pas supporté, donc voilà, il fait une expérience de mort imminente. Et à partir de maintenant, on va considérer qu'il bénéficie de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il voit, entre guillemets, il perçoit l'information. Enfin, je dis voit, c'est pas une question, évidemment, il n'y a pas des hyper-yeux ultradimensionnels. On considère une acquisition d'information. Donc, Dédé va bénéficier de l'information sur son monde comme nous la percevons nous. Alors voilà, quand il est sur le point A, il voit par exemple, ça c'est quand il est chez lui, dans son univers. Là, il y a un tableau à une dimension sur le mur qu'on vient de voir. S'il veut voir autour de lui, ben, il est obligé de se retourner, de faire le tour, comme nous. Il ne peut voir que trois tabourets à la fois puisque son champ visuel est limité. Et s'il veut tous les voir, ben, il fait le tour de la table, comme tout le monde. S'il veut aller au garage voir l'état de sa voiture, ben, il passe par les portes. Et après, s'il soupçonne sa belle-mère d'être encore une fois en train de farfouiller dans le frigo, ben, il est obligé aussi de repasser par les portes pour aller voir la belle-mère. Vous remarquerez comme elle est mignonne. Il y a un certain nombre de choses qui sont cachées dans son univers. Ce qu'on vient de voir, c'est sa carte d'identité, en fait, qu'il a laissé tomber il y a 15 jours et il ne sait plus où elle est. Et comme elle est derrière le sofa, ben, il ne peut pas la voir. Alors voilà un petit exemple typique de ce genre d'expérience, juste pour vous donner une idée, après on essaiera de faire plus court. J'étais au niveau du plafond de ma chambre de réanimation, au-dessus de ma tête. Je me voyais couché sur le lit. Un médecin était affairé aux machines de réanimation sur ma gauche. Ça sonnait de partout, c'était assez surréaliste. Une infirmière était auprès de moi, réglant les perfusions et autres tuyaux. Une autre infirmière courait du médecin au lit, sortait de la chambre et revenait tout en courant. L'infirmière auprès de moi me parlait, reste avec nous, c'est pas le moment de partir. Je la vois en train de me gifler. On ne rit pas, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'étais bien, j'avais plus mal. J'ai dit, pourquoi vous voulez que je revienne? Pour une fois, je n'ai plus mal. Puis j'ai ajouté, bon, d'accord, mais j'étais pas vraiment contente. Voilà. Le point important, ce qui a pu être vérifié, c'est le nombre de personnes dans la chambre, ce qu'elles faisaient et disaient. Là, je peux vous en raconter pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Alors, quand on essaie d'explorer un petit peu ces perceptions, donc, ben, on peut demander aux gens un certain nombre de détails. Les notions de haut et bas, droite et gauche, avaient-elles un sens? Oui, pour la scène de réanimation, j'étais en haut de la chambre au niveau du plafond. C'est une notion d'orientation des choses les unes par rapport aux autres. Pas une réelle localisation géographique, physique, c'est difficile à expliquer. Alors effectivement, est-ce que vous êtes quelque part, vous et moi, dans ce plan? Absolument pas. Les choses restent orientées les unes par rapport à l'autre, aux autres. La voiture est là, la belle-mère est là, la table du salon est là. Les choses sont, il y en a qui sont à droite, à gauche, effectivement. Mais il n'y a pas de localisation géographique ou physique par rapport à celui qui perçoit. Les choses et les personnes sont tout à fait orientées les unes par rapport aux autres dans les trois dimensions. Enfin, là, il n'y en a que deux puisque pour la simplification, on a réduit d'une dimension. Par contre, on voit la scène globalement, c'est-à-dire dans son ensemble. C'est difficile à expliquer. Effectivement. Mais là, bon, ben, vous voyez bien, effectivement, qu'on voit la maison dans son ensemble. On voit absolument tout, du garage à la cuisine, en passant par le salon, les chambres et le reste. Dans son ensemble, ça n'a rien d'ésotérique. C'est simplement que c'est quelque chose qui est totalement impossible. Quand Dédé, il s'appelle Dédé, hein, parce qu'il a deux dimensions, quand Dédé est à l'intérieur de son univers, effectivement, mais à partir du moment où il bénéficie de notre propre point de vue, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est d'expliquer ça au retour, évidemment. Par exemple, sur Terre, si vous avez une personne placée devant un objet, vous ne voyez pas cet objet. Pour le voir, il faut que vous changiez de place. Effectivement, si Dédé se trouve près de sa belle-mère, s'il est là, il verra pas le frigo. Donc il faut qu'il vienne ici ou qu'il fasse le tour pour voir le frigo. Donc la belle-mère lui cache le frigo. Là, c'est différent. La personne est bien devant l'objet. L'orientation des choses demeure, c'est le cas. Mais malgré cela, vous voyez quand même l'objet. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous voyez la scène dans son intégralité. C'est exactement ce qui se passe. Là, je veux dire, c'est pas la peine d'expliquer. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Sur Terre, pour tout voir, il faut bouger pour changer son angle de vision. Là, vous voyez tout sans avoir à bouger, mais les choses et personnes sont bien orientées les unes par rapport aux autres. Je ne vois pas ce qu'on peut rajouter à ça, c'est exactement ce qu'on peut voir en ce moment. Je répète, sans rien d'ésotérique, on est juste à une certaine distance de cet écran. Aviez-vous l'impression d'avoir un angle de vision plus important, de voir par exemple à la fois devant et derrière vous? Oui, vision totale instantanée. Alors bon, mais manifestement, il n'y a pas besoin de se retourner pour voir où que ce soit, puisque on voit l'ensemble de la scène. Avez-vous l'impression de voir un objet ou une scène depuis plusieurs endroits à la fois? Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire quand je parlais plus haut d'une orientation, mais pas d'une réelle localisation physique. Encore une fois, une vision totale instantanée. Ben, c'est évident, on voit les quatre chaises simultanément de cette table, on voit n'importe quel objet, on en voit simultanément toutes les faces, donc aucune face ne peut être cachée, et bon, ça peut donner l'impression de voir l'objet depuis plusieurs endroits à la fois. Alors, cette impression de mouvement instantané de zoom que rapporte un bon nombre de gens, la première des choses à comprendre, c'est que on est habitué à être là où on perçoit. Si vous êtes dans une pièce, vous voyez ce qu'il y a dans cette pièce. Si vous êtes dans une autre pièce, vous voyez ce qu'il y a dans cette autre pièce. Vous n'êtes jamais dans deux pièces à la fois. Si vous vous intéressez à un objet, ou à quoi que ce soit, vous avez tendance à vous en rapprocher pour l'examiner. Ça, c'est Dédé, c'est exactement la même chose. Et voilà ce que racontent les témoins. Donc je vois partout à la fois, c'est le cas, sauf quand je vise un objectif vers lequel je suis projeté à grande vitesse, comme si je zoomais dessus. Et on va voir qu'il y a toujours une difficulté à discerner entre une impression de zoom et une impression de déplacement. C'est comme un zoom rapide pour être là où je regardais, comme un zoom très rapide, je ne me rappelle pas vraiment si c'est un déplacement ou juste un zoom. Mais je suis là où je visais, donc il y a déplacement. Alors voilà, bon, mais Dédé, là, il est près de sa belle-mère. Et votre regard peut très bien se déplacer instantanément de la belle-mère au stop qu'elle a accroché. Si vous vous intéressez à la belle-mère, vous allez voir les détails de sa chevelure. Vous allez voir qu'il y a donc un panneau stop. Bon, vous n'avez pas bougé de place, il n'y a rien qui s'est déplacé, à part la direction de votre regard, qui est quelque chose de virtuel. Mes déplacements étaient soumis à ma volonté avec un effet instantané, zoom instantané de ma vision sans déplacement de ma part. En fait, c'est simplement une focalisation de l'attention. On s'intéresse à une partie plus précise de l'information qui est acquise, manifestement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça fonctionne à la fois comme un déplacement et comme un zoom. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Les gens sont totalement incapables de faire la différence entre les deux. Quand on veut aller quelque part ou quand on s'intéresse à quelque chose, c'est comme si on faisait un coup de zoom. C'est à la fois le déplacement et la perception qu'ils permettent. Il est difficile de séparer les deux dans la mesure où il n'y a pas de notion de temps, donc pas de temps de déplacement. Alors, ça c'est une caractéristique qu'on rencontre très très souvent, parce qu'en fait elle n'est pas très différente de notre vision habituelle. On a un champ visuel d'à peu près 180 degrés. Bon, c'est un élargissement de notre champ visuel, donc pas mal de gens ont rapporté ce genre de vision, c'est très fréquent. Donc voilà, Dédé, lui, s'il est à cet endroit-là, il voit ces trois tabourets, et il est obligé de tourner sur lui-même pour voir un petit peu ce qu'il y a autour de lui. Maintenant, on va supposer que le point de vue de Dédé, le point de perception, disons, va se trouver au-dessus de la table. À ce moment-là, il va s'apercevoir, il peut percevoir, comme vous et moi, aussi bien le tableau qui est en haut, le sofa, les fenêtres, il voit tout ce qui l'entoure. S'il a une perception diffuse de son environnement, il a l'impression de voir à 360 degrés, puisqu'il peut voir absolument partout sans se retourner, ce qui n'est pas le cas quand il est chez lui. On voit de tous les côtés à la fois, je voyais partout, j'avais un angle de vision de 360 degrés. J'avais une perception globale, comme sphérique de la pièce. Mon champ de vision était plus étendu qu'à l'ordinaire. Vu global, sans nécessité de tourner la tête de droite ou gauche, ou même sans se retourner, je n'avais pas besoin de tout cela. Maintenant, quelque chose d'un peu plus ésotérique, l'impression de percevoir depuis partout à la fois. En fait, vous allez voir tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a raconté cette vision, qui m'a donné l'idée à l'origine de cette modélisation, en réfléchissant à la façon dont il avait perçu. J'ai eu l'idée que ça pouvait être ce que je vous explique en ce moment. Alors maintenant, Dédé est toujours, entre guillemets, son point de perception, disons, est toujours au-dessus de la table, mais au lieu d'avoir une perception diffuse de tout ce qui l'entoure, il va s'intéresser à la table. Et il va s'apercevoir qu'il voit à la fois tous les tabourets, et qu'il voit aussi bien le dos que des tabourets que la table. Donc, comme d'habitude, pour voir le 4, il devrait être là, pour voir le 3, il devrait être là. Là, en fait, il voit le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, et il est partout à la fois. C'est l'impression qu'il va donner, qu'il va essayer de rapporter à ses copains en rentrant. Il va dire, je peux pas vous dire mieux. Voilà, on peut voir depuis partout à la fois. Je pouvais voir absolument partout, sous tous les angles, simultanément. Bon, pas besoin de faire un dessin puisqu'il l'est fait, il est sur l'écran. J'avais une vision à 360 degrés de manière sphérique. Je voyais, bon, ça c'est voilà le témoignage qui m'a donné l'idée de cette modélisation. Pour préciser, c'est pas une théorie, je pense pas, je suis pas sûr, j'en sais rien, qu'il y ait une dimension supplémentaire. Tout se passe comme si, c'est une modélisation géométrique, si vous voulez. Je voyais mon propre corps depuis partout à la fois, du dessus, de côté, de face, de dessous. C'était vraiment extraordinaire de voir être tout cela en même temps. Quand je voyais le sofa, les meubles et la pièce dans laquelle je me trouvais, j'étais à la fois en haut, de côté, de profil, de face, c'était très net. Bah, c'est exactement ici. Hein. Bah, Dédé, il a l'habitude, s'il se regarde dans une glace, il va voir sa face, il verra pas l'arrière de son crâne. Là, il voit à la fois sa main gauche, sa main droite, le bout de son nez et l'arrière de son crâne. Et tout ce qu'il y a autour, bien entendu. Mais évidemment, si le point de perception est un petit peu plus élevé, on va pas s'intéresser à un truc en particulier, que ce soit son propre corps ou quoi que ce soit, ou un détail, mais ça peut être une clinique entière, ou pour ce que vous voyez là, l'ensemble de la maison. C'est-à-dire que ben, vous n'êtes pas dans la cuisine, mais vous voyez la cuisine. Vous n'êtes pas dans le salon, mais vous voyez le salon. Vous voyez strictement toutes les pièces de cette maison simultanément. Pouvez-vous dire dans quelle pièce vous êtes ? Non. Ben, cette dame non plus, parce que je me trouvais à la fois en haut, en bas et partout, dans toute la clinique. J'étais à la fois en bas et en haut, et partout à la fois, en fait. Voilà, c'est un peu répétitif, mais elle s'est sentie obligée de le dire deux fois, ce qui se comprend. Alors, encore un truc farfelu, perception par transparence. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, dans cette pièce, il y a au moins deux choses que Dédé ne peut pas voir quand il est chez lui. Ça, c'est un tableau. Alors là, il y a un tableau qui est affiché sur le mur. Par contre, là, il y a un tableau qui est dans un coffre. Dans le mur de la cuisine, entouré de béton et d'acier, donc personne ne peut le voir, personne ne le sait, à part Dédé, puisqu'il le cache pour ses vieux jours. Il y a aussi donc sa carte d'identité, alors là, il ne sait même pas qu'elle est là, puisqu'il l'a perdue. Et par contre, pour nous, il n'y a aucun problème. On voit à la fois la cloison qui donne dans la cuisine, la cloison qui donne dans le hall, et le tableau qui est au milieu. On voit à la fois le sofa et le mur qui est derrière, et la carte d'identité qui se trouve entre les deux. Et pour nous, quand on voit à la fois un contenant ou quoi que ce soit, qu'on voit sa face avant, sa face arrière et ce qu'il y a à l'intérieur, la seule explication, c'est que cette chose-là est transparente. Et voilà ce que ça donne dans les témoignages. J'avais une vision très perçante et j'ai vu à travers un bout de table, j'ai vu à travers la toile opératoire qui est autour de l'opération, les chaussures d'un des réanimateurs probablement, il y en avait un qui avait son lacet défait, ce qui a été vérifié plus tard. Je voyais devant, je voyais derrière, je voyais en dessous, je voyais de loin, je voyais de près. Vous pouvez essayer, hein, ça marche. Et aussi par transparence. Je me souviens avoir vu un tube de rouge à lèvres dans la poche d'une infirmière. Si j'avais envie de voir l'intérieur de la lampe qui éclairait la pièce, j'y parvenais. Et tout cela instantanément, dès que je le souhaitais. Moi, je sais ce que vous pensez, mais j'ai jamais eu de témoignage de quelqu'un qui m'ait donné la couleur des dessous des infirmières. Mais ça peut arriver. Et bien entendu, si on peut voir n'importe quoi par transparence, en fait c'est pas de la transparence, on a toute l'information sur un univers, ben on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de son propre corps. Là vous voyez les tripes, les blood and guts de Dédé, de sa belle-mère, et ce qu'en disent les gens. Je voyais tout autour de moi ainsi que l'intérieur de mon corps. Ça c'est le rêve de tout médecin, seulement pour l'instant il est obligé de se donner des grands coups de marteau sur la tête et ça marche pas à tous les coups. Au bout d'un moment, je vois ma main en cristal. Alors ça, quand j'ai reçu ce témoignage, je me dis, du cristal, ça c'est un truc new age, c'est quelqu'un qui délire. Après, j'ai compris. Et je me dis, là, je vois tous les petits vaisseaux. Mais comment ça se fait? Là, je vois tous ces petits vaisseaux dans ma main. Ça m'amusait, mais sans approfondir la chose. Mais c'est quand même intéressant. On a aussi des effets de perspective. Ça, c'est des effets de perspective statique, si vous voulez. C'est la perception d'informations, entre guillemets, d'un univers en deux dimensions depuis une troisième dimension. Il suffit d'en rajouter une pour comprendre ce qui se passe chez les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Maintenant, le point de perception peut, dans certains cas, mouvoir, se déplacer, par exemple, dans la hauteur. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va trouver comme témoignage ? Après le choc, j'ai quitté mon corps d'une manière géographiquement généralisée. J'étais partout à la fois avec une vue panoramique. Ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a aucun concept, on n'a rien pour décrire ces états-là, je trouve que les gens qui ont vécu ces expériences que j'ai interviewées ont une imagination et des expressions que je trouve extraordinaires. Une manière géographiquement généralisée, ben effectivement, où êtes-vous là ? Toujours au même endroit ? Vous avez tout quitté en même temps. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné à la fois du corps de Dédé, là, qui est dans les pommes par terre, de la table, des murs. On est parti géographiquement généralisé. J'étais partout à la fois avec une vue panoramique. Bon, je vous fais pas un dessin, il n'y a qu'à regarder l'écran. Autre exemple, après ce que j'appellerais la familiarisation avec l'état de se balader, je suis parti alors que je suis sûr d'être resté au même endroit. Je dirais que ma vision s'est élargie. Ben, regardez, on reste au même endroit, mais on part. Et en même temps, on a une vision qui s'élargit. Voilà. On ne peut pas trouver mieux. Bon, alors il y a des personnes qui traversent les murs. On va faire très très vite. c'est très simple. Normalement, on passe par les portes, mais il suffit d'avoir notre regard. On n'a rien de physique qui traverse les murs. On a un regard qui va passer d'un endroit à l'autre, et évidemment, il va traverser les murs. Mais à un moment, je me dis, bon, je connais cette partie du bloc, mais pas le reste. Et c'est alors que j'ai traversé le mur. Mais elle n'a pas traversé le mur, elle a regardé à travers, enfin, elle a regardé ailleurs, depuis une certaine dimension. Je me demande bien comment j'ai pu faire ça. Et évidemment, chez nous, il y a trois dimensions, donc il n'y a pas que les murs, il y a aussi les plafonds et le toit. Je suis passé à travers le plafond de la chambre, à travers le toit, sans la moindre gêne. Et tout était comme dans la réalité, exactement la même place, sauf que je pouvais voir les éléments de la matière et passer au travers. Alors, entre effet de perspective dynamique, tandis que ma vue de la pièce était toujours totale comme une panoramique, la perspective changeait un peu avec mes déplacements et selon ma localisation dans l'espace. Voilà, un point de perception qui bouge, disons, horizontalement. En conclusion, ce que j'essaie de faire, c'est une analyse phénoménologique qui concerne un point de perception particulier et son comportement. Et tout ça peut être analysé en termes d'acquisition et de retraitement d'informations. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui ont vécu cette expérience, quoi qu'il en soit, disent l'avoir vécu, l'ont mémorisé, mais donc c'est quelque part dans leur cerveau puisqu'ils vous en parlent. Ça a été retraité par le cerveau qui a l'habitude d'essayer de tout mettre dans des catégories qu'il connaît, et ensuite ça a été verbalisé. Donc le problème quand on étudie ces expériences, c'est qu'on est au bout de la chaîne. On a quelqu'un qui vous raconte quelque chose qui s'est passé il y a souvent plusieurs années, et il faut essayer d'extraire tout ce qui est significatif de tout ça, ce qui n'est pas évident. Voilà, dernier petit truc, une mise à l'épreuve irréfutable, parce que ce que je raconte, ça paraît peut-être un peu farfelu, et si on veut aller plus loin sur le plan scientifique, il faut quand même essayer de voir s'il y a quelque chose de réel derrière. C'est très vite fait, voilà. Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur cette page? La petite fleur. À 99%, c'est la petite fleur. La petite fleur, c'est un élément sympathique, coloré, qui attire l'œil, au milieu d'un environnement qui est, faut le reconnaître, un petit peu aride. Bon, ben c'est très simple, si on met une cible cachée, puisqu'on a vu que si Dédé se promène dans cet univers, il va faire le tour des lettres, il va dire, tiens, c'est un champ de lettres, probablement, ça pousse bien cette année. Et puis là, il va taper sur quoi? Sur ce qui est un carré, pour lui, c'est du béton. Il n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Pour nous, il n'y a aucun problème. On voit tout l'ensemble, y compris la petite fleur, et c'est même ce qu'on voit en premier. Donc, si on fait la même chose qu'on peut envisager de disposer dans des réanimations, des services de chirurgie cardiovasculaire, enfin voilà, partout où une expérience de mort imminente peut se produire, une cible toute bête, mais qui aura été cachée par un huissier, bien entendu, qui soit suffisamment humaine pour attirer l'attention, donc il faut qu'il y ait de l'information dans cette cible, qui soit en même temps suffisamment plausible pour que la personne, voilà, si la personne vous dit bah, « j'ai vu Betty Boop sur le frigo », elle n'osera pas. Donc il faut quelque chose, il faut bien réfléchir aux éventuelles qualités de la cible, mais bon, on doit pouvoir tester le modèle que je viens de vous présenter. Voilà, je vais vous lire en même pas 10 secondes quelques questions auxquelles il faudra répondre si on veut comprendre quelque chose, et avant de donner des explications définitives. Comment se peut-il que notre conscience, qui est extrêmement complexe et qui émerge apparemment du fonctionnement de l'engin biologique le plus complexe que porte notre planète, qui dépend de conditions physiologiques quand même assez étroites et contraignantes, que quelques milligrammes ou microgrammes de substances diverses peuvent complètement perturber, comment se peut-il donc que dans des circonstances souvent plus que catastrophiques, elles puissent apparemment se révéler plus claires que jamais? C'est en tout cas ce que disent ces personnes, et ils donnent des preuves parfois. Comment peut-on vivre et mémoriser exactement le même genre d'expérience avec un cerveau réfrigéré et un EEG plat pendant un arrêt cardio-circulatoire, lors d'une overdose d'héroïne ou de LSD, en faisant l'amour ou lors d'une peur intense, comme dans les Fear Death Experience, où on croit se prendre un camion de plein fouet et c'est évité au dernier moment? Les gens vous racontent exactement la même expérience. Comment peut-on à ce moment-là percevoir plus clairement des choses que même les personnes conscientes et en bonne santé qui sont présentes ne pourraient pas connaître, parce qu'elles sont cachées dans la poche de l'infirmière, sous la table d'opération, derrière le mur ou à 800 mètres de là, ou encore parce qu'il s'agit de la colère du chirurgien, du malaise de l'instrumentiste ou de l'absence de la moindre chaise dans la salle d'attente? Pourquoi des hallucinations porteraient-elles sur des scènes aussi banales, aussi précises, avec un déroulement qui procure des repères temporels qui sont justement ceux qui la rendent impossible? S'il s'agit d'hallucinations, pourquoi ne sont-elles pas plus délirantes et au moins dépourvues de logique? Peut-on qualifier d'hallucination des expériences aussi structurées, aussi semblables d'une personne à l'autre? Comment peut-on se souvenir de tout cela alors que les structures cérébrales responsables de la mémorisation sont à ce moment-là aussi efficaces que leur poids de yaourt? Comment est-il possible que ce soit au moment précis où nous avons la certitude d'être morts, que la valeur et le sens de la vie nous apparaissent enfin avec tant de clarté? Ça, on n'en a pas parlé, c'est pourtant très important. Mais bon, il faudra faire d'autres conférences. Comment une expérience qui souvent n'a duré que quelques secondes peut-elle aussi systématiquement changer les conceptions, les valeurs et la vie de ceux qui l'ont vécue, chargée d'un sens éthique tel qu'elle relègue aux oubliettes comportements et croyances antérieures. Une hallucination serait-elle assez puissante qu'elle remette en question avec succès une vie de conditionnement culturel, politique et religieux ? Voilà, bon, vous pourrez en parler encore pendant des heures, mais je laisse la place à la suite. Merci.
Canal Academy vous a proposé cette retransmission de ce deuxième colloque intitulé « Les états modifiés de conscience ». Vous avez pu écouter l'intervention de Jean-Pierre Jourdan, médecin président et directeur de la recherche médicale de l'association IANDS France. Son propos s'intéressait aux états de mort imminentes. Je vous rappelle que ce colloque était organisé par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous vous invitons à écouter la première partie de ce cycle de colloques enregistré en mars 2012 et dont le thème portait également sur les états modifiés de conscience. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le fichier PDF qui accompagne les propos de Jean-Pierre Jourdan. Ce diaporama est disponible à la fin de l'article. Thank you.